IDFM Radio Anguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie. Et je vous le savez que depuis deux mois maintenant, eh bien cette émission est marrainée, si on peut dire, par Danielle Brio, qui est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, donc la marraine de cette émission et le parrain. Et Jean-François Pellerin, qui est journaliste scientifique. Donc Danielle Brio, Jean-François Pellerin et moi-même vous souhaitons la bienvenue pour cette émission À toi les étoiles, 90e émission déjà, hein. Alors, il faut savoir qu'en mars 2013 on fêtera la 100e. Et le thème de cette émission aujourd'hui, eh bien, c'est le passage de Vénus devant le Soleil. Un événement à ne pas manquer, avec comme invité Pierre Drossard, qui est directeur de recherche CNRS et directeur au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, de l'Observatoire de Paris, et non pas, comme vous l'avez annoncé Frédéric Gouache tout à l'heure, Thomas Wiedemann, puisqu'il y a eu un changement de dernière minute. Voilà. Eh bien, monsieur Drossard, bonsoir.
Bonsoir.
Merci donc d'avoir remplacé au pied levé donc monsieur Wiedemann. Et tout d'abord, eh bien, je lance un appel aux auditeurs. Ils peuvent poser des questions dès à présent au 01 34 12 12 22 ou par le www.idfm98.fr, rubrique message live. Monsieur Drossard, est-ce que vous pouvez tout d'abord, comme j'ai l'habitude de faire, hein, je demande toujours aux invités de faire une présentation rapide de l'organisme pour lequel ils travaillent.
Alors, en quelques mots, là, je travaille à l'Observatoire de Paris, qui est un grand établissement du ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est le plus grand observatoire en France, qui accueille plus de 600 personnes et à peu près 30% de la communauté astronomique française. Donc, pour dire qu'on y fait à peu près toutes les études en astronomie et astrophysique de nos jours, depuis l'étude du Soleil, des relations Soleil-Terre, des planètes, des étoiles, du milieu interstellaire, des galaxies, de la cosmologie et aussi de la métrologie et de l'espace-temps, sans oublier l'histoire et la philosophie des sciences, donc à peu près tout ce qu'on fait en astronomie. Dans cet observatoire, je dirige le laboratoire d'études spatiales et instrumentation en astrophysique, le LESIA, qui participe à l'élaboration de nouveaux instruments pour l'espace ou pour les télescopes au sol. Et nous avons en particulier un instrument sur lequel nous avons largement contribué, qui est sur la sonde Vénus Express, autour de Vénus, le sujet du jour.
Voilà, justement, alors le sujet du jour consacré à Vénus, puisque il y a donc la Vénus tourne autour du Soleil et il y a des moments où elle passe devant le Soleil. On appelle ça des transits de Vénus. Et donc c'est une séquence qui est de 243 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait cette séquence?
Oui, donc Vénus est une planète qui tourne autour du Soleil, comme la Terre. Elle est plus près du Soleil que la Terre, à peu près un quart de la distance Terre-Soleil en partant de la Terre. Et à cause des lois de l'astronomie, les lois de Kepler, donc Vénus fait une révolution autour du Soleil en 225 jours, alors que la Terre le fait en 365 jours. Donc si les deux planètes tournaient dans le même plan, on aurait un alignement de la Terre, de Vénus et du Soleil tous les 584 jours, chaque conjonction, comme disent les astronomes. Mais les plans des deux orbites sont un peu différents, ce qui fait que pour que la conjonction se produise exactement, c'est-à-dire que pour que Vénus passe entre le Soleil et la Terre, et apparaissent un peu donc, comme une éclipse, il faut en plus que les deux plans se rencontrent sur la même ligne. Et ça se produit beaucoup plus rarement. En pratique, donc, quand on fait les calculs, on se rend compte qu'il y a une telle éclipse. Alors, elle est évidemment très partielle. Vénus est très petite par rapport au disque solaire parce qu'elle est beaucoup plus loin que la Lune, par exemple, lorsque la Lune fait une éclipse de Soleil. Mais cela ne se produit en fait que en moyenne deux fois par siècle à peu près. Et donc, la prochaine occurrence, c'est les 5 et 6 juin 2012, donc dans un peu plus de 2 semaines. Et la prochaine occurrence, ça sera au 22e siècle. Donc c'est la dernière fois du 21e siècle que les observateurs sur Terre vont pouvoir voir ce phénomène.
D'accord. Et comme on l'a expliqué hier, enfin oui, parce que alors on va expliquer aux auditeurs que je me suis rendu donc hier à une conférence de presse sur ce passage de Vénus. Donc il y a, comme vous l'avez expliqué, des périodes de une longue période, plus d'un demi-siècle, un siècle et demi, pardon, hein, où il se passe rien. Et ce qui est curieux, c'est qu'ensuite, à 8 ans d'intervalle, le passage se répète.
Alors oui, donc ça, ce sont les calculs donc astronomiques qui le montrent. Il y a, lorsque les deux planètes donc, passent en alignement, il y a en fait 2 passages de Vénus devant le Soleil assez rapprochés. Le dernier a eu lieu le 8 juin 2004. Et là, on va vivre le deuxième du 21e siècle le mois prochain. Et ensuite, une longue période. Alors quand on fait ces calculs d'éclipse, de Vénus qui passe devant le Soleil, on trouve effectivement que les choses se répètent avec une séquence de 243 ans en tout, avec donc 2 passages à quelques années d'intervalle, ensuite une très longue période et les choses se reprennent. Par exemple, les derniers passages étaient au 19e siècle. Il y a eu un passage le 9 décembre 1874, suivi d'un autre le 6 décembre 1882. Et il n'y en a pas eu au XXe siècle, puisque donc le dernier était au début du XXIe siècle, en 2004. Alors ces séquences, bon, pour l'expliquer rigoureusement et mathématiquement, bon, faut faire un petit peu de calcul astronomique, mais le principe est assez simple à comprendre, hein, c'est que cet alignement de la Terre, de Vénus et du Soleil ne peut se produire que assez rarement à cause de l'inclinaison du plan de l'orbite de Vénus par rapport au plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil.
On va parler plus en détail de cette observation, de ce transit qui a eu lieu en 2004, puisque on a dit que ça a été très intéressant, puisqu'il y a des mesures qui ont été effectuées lors de son transit.
Voilà, alors on dit transit, c'est plutôt la dénomination anglaise, les puristes français vont dire plutôt passage, mais bon, les deux mots se comprennent bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est que on voit le disque de Vénus passer sur le disque solaire. Alors attention, il ne faut pas regarder le soleil directement à l'œil, hein, comme tous nos éditeurs le savent très certainement lorsqu'ils regardent des éclipses de soleil, il faut mettre des lunettes spéciales ou regarder par projection. On voit donc une tache qui a la taille angulaire de Vénus par rapport au Soleil. Ça fait un petit disque qui ferait comme une grosse tache solaire sur le disque. Alors lorsque on fait de manière précise le chronométrage du passage de Vénus devant le Soleil, on a la possibilité de connaître comme cela très précisément une mesure de distance dans le système solaire et par là de mesurer la distance fondamentale de l'astronomie du système solaire qui est l'unité astronomique, la distance Terre-Soleil moyenne. À partir de là, on peut donc reconstituer l'ensemble des distances dans le système solaire. Alors c'était autrefois, tant qu'on n'avait pas les sondes spatiales et les mesures par radio des distances aux sondes spatiales, la seule méthode précise pour mesurer les distances absolues dans le système solaire. Donc ça a été un phénomène astronomique très important avant le XXe siècle. Alors, on a voulu répéter cela de manière pédagogique en 2004 en faisant participer les astronomes amateurs et même les classes d'élèves à ces mesures pour montrer et très directement par ces calculs l'intérêt de ces méthodes, tout au moins l'intérêt historique. Et c'est ce qui a été produit en 2004 et qui sera fait également en 2012, même si, comme on va le voir, les observations sont un peu plus compliquées parce que le soleil sera très bas sur l'horizon, sur la France. Il y a donc, vous pourrez trouver un site internet qui permet après de connaître un peu tous les contacts pour avoir les informations pratiques pour participer à ces observations. C'est le site de l'Institut de mécanique céleste de l'Observatoire de Paris qui est imcce.fr. sur lequel vous trouverez des informations pour les observations et les contacts pour ces mesures directes et les explications sur les passages de Vénus.
Bien sûr, et on redonnera d'ailleurs l'adresse du site internet tout à l'heure en fin d'émission. Alors justement, sur ces observations en 2004, comme vous l'avez dit, ça se passait donc en milieu de journée. Moi, je me souviens que j'avais pris ma journée cette fois-ci, et j'avais donc été à l'observatoire du Club Copernic dont je suis membre. On avait pu observer, puisqu'on avait en plus la météo qui était vraiment avec nous, et on a pu voir donc cette petite tache noire passer devant le soleil. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Alors, si vous, en ce qui concerne l'Observatoire de Paris, vous aviez organisé quelque chose pour le grand public, il me semble.
Tout à fait. L'Observatoire donc comprend plusieurs lieux, puisque l'Observatoire de Paris comprend l'Observatoire du site parisien d'Enfer Rochereau, mais également l'Observatoire de Meudon, à Meudon, et où il y a aussi quelques télescopes, ainsi que le site de Nancy en Sologne. Et moi, j'étais moi-même à l'Observatoire de Meudon, où on avait d'ailleurs organisé une réunion de scientifiques, des personnes de l'Agence spatiale européenne, de la mission Vénus Express, et il y avait eu une ouverture aux classes et au grand public pour permettre de voir. Le site de Meudon est en particulier dédié à l'observation du soleil, donc on avait tous les instruments qu'il fallait pour observer le soleil, et même projeter en grand le disque solaire, et on a pu suivre comme cela le passage de Vénus devant le soleil. Il avait fait très beau ce jour-là, ça a été un très grand succès en effet.
En fait, répéter les observations qui avaient été faites lors du précédent transit, donc en 1800, dans les années 1800, dont vous nous avez expliqué tout à l'heure. Mais entre-temps, les outils ont bien sûr été perfectionnés.
Bien entendu. Là, déjà, sur les instruments d'optique ont été perfectionnés, mais également, ce qui s'est amélioré beaucoup, c'est la mesure du temps. Pour observer ces passages de Vénus au XIXe siècle, et bien entendu encore plus les siècles précédents, il avait fallu monter des expéditions pour pouvoir l'observer sur les lieux lointains où se passait ce passage. Puisqu'il faut évidemment, pour pouvoir observer le phénomène, que le soleil soit levé tout simplement, et ça ne se produit pas forcément, et cette fois-ci on y reviendra, ça se passe au début du lever du soleil, donc pas dans les meilleures conditions pour l'observation. Et les siècles précédents, il fallait aller dans des lieux lointains. À ce moment-là, vous n'avez pas forcément un observatoire sur place. Il faut monter des moyens de fortune et aussi avoir une mesure du temps précise, ce qui n'était pas si facile que ça, du temps où on n'avait pas les GPS et les horloges par radio. Donc aujourd'hui, on a des instruments plus précis. On a en particulier, si on veut observer des phénomènes très particuliers de l'atmosphère de Vénus, ce qu'on appelle des coronographes, c'est-à-dire des instruments qui permettent d'occulter le disque solaire très brillant pour voir le moment où Vénus rentre dans le disque ou sort du disque solaire et voir le fin rayon de l'atmosphère de Vénus lorsqu'elle réfracte la lumière solaire. Pour voir ces choses-là, qui avaient été vues en 1880, on a aujourd'hui des instruments beaucoup plus performants et on peut faire des mesures physiques plus précises. Alors le fait d'avoir eu la répétition générale en 2004 a en particulier permis, et c'était la première fois que les hommes vivants pouvaient l'avoir, puisque les observateurs précédents du 19e siècle, on a pu donc mettre au point les techniques modernes et on espère, en les ayant un peu perfectionnées en 2004, avoir les meilleurs résultats en 2012.
On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Il y a des réactions d'auditeurs et à Xavier qui demande, il paraîtrait qu'un certain colonel Lanceda a mis au point un appareil photographique pour le passage de la planète Vénus en 1874.
Alors, je n'ai pas connaissance.
Ah, les auditeurs ont des questions pointues, hein, parfois.
Ah,
hein.
Je vois, oui. Non, ceux que je connais, enfin, votre auditeur a certainement raison, mais l'astronome qui avait mis au point effectivement un instrument un peu du même type. C'était Jules Janssen qui avait mis au point ce qu'on a appelé le revolver photographique pour faire de la cinématographie avant l'heure, hein, pour avoir le phénomène et sa succession d'images dans le temps avec un instrument, un appareil photographique, mais avec un barillet qui permettait de faire tourner les plaques photo et d'obtenir une série d'images. Ça, c'est encore dans les archives de l'Observatoire. Alors, je ne connais pas la personne que mentionne votre auditeur. Je pense qu'effectivement, ce sont des techniques qui étaient dans l'air à cette époque-là.
Bien sûr. On va s'interrompre quelques instants, Monsieur Drossard, le temps de laisser aux auditeurs de digérer toutes ces informations. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, comme l'a fait Xavier, via le www.idfm98.fr, la rubrique message live, et puis également au 01 34 12 22, pardon. Si je donne mon numéro de personnel, ça va pas le faire. voilà, on va s'interrompre avec Bananarama, un titre qui rentre bien dans l'actualité puisque ça s'appelle Vénus, justement. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.
IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios.
La plus francilienne des radios.
Sur 98 FM.
Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour la suite de cette émission À toi les étoiles. Le thème, je vous le rappelle, c'est le passage de Vénus qui aura lieu donc prochainement. Le passage de Vénus devant le Soleil, un événement à ne pas manquer. Et je reçois comme invité Monsieur Pierre Drossard, qui est directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle le LESIA de l'Observatoire de Paris. Il est avec nous au téléphone. Nous poursuivons donc et j'aimerais maintenant qu'on parle de ce qui va se passer en 2012 et notamment à l'occasion de ce passage de Vénus en 2012, il y a une campagne d'observation internationale qui a été lancée.
Tout à fait, oui. Comme en 2004, il y a une campagne d'observation qui va être coordonnée par en particulier l'Observatoire de Paris et que vous pouvez trouver là sur le site de l'Observatoire, là, que vous redonnerez sans doute tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les astronomes amateurs peuvent bien noter leurs observations, et en particulier les temps de passage de Vénus juste au moment où elle sort du disque solaire, pour, à partir de là, faire des calculs astronomiques qui permettent de recalculer les distances dans le système solaire. Tout ça est expliqué, en particulier par Jean-Eudes Arlot, qui est l'astronome à l'Observatoire de Paris, qui coordonne ces observations. Pour pouvoir le faire, c'est un instrument d'astronomie avec les filtres pour pouvoir observer le Soleil, ou tout simplement par projection du Soleil, comme on peut le faire très facilement soi-même. Il est important de rappeler qu'il ne faut jamais observer le Soleil directement à l'œil nu. Ça peut causer des lésions oculaires très graves, et toujours le faire avec des lunettes.
Voilà. Sinon, vous risquez de devenir aveugle définitivement ou d'avoir de graves lésions. Donc, faites très attention à cela. Vous parliez tout à l'heure d'atmosphère de Vénus. Alors, justement, avec ce passage de Vénus, est-ce qu'on va pouvoir voir l'atmosphère ?
Alors, pour les astronomes amateurs, ça sera quand même un peu difficile. Il faut des instruments spécialisés, ce qu'on appelle les coronographes, qui permettent d'occulter le disque du Soleil pour ne voir que la planète juste au moment où elle rentre dans le disque ou au moment où elle en sort. Pourquoi ? Parce que Vénus va passer entre la Terre et le Soleil. Donc, ce qu'on verra, c'est l'ombre de Vénus sur le disque solaire. Et Vénus a une atmosphère épaisse qu'on connaît et qu'on étudie en particulier avec des sondes spatiales. Mais pour voir sur le bord de l'ombre les effets de l'atmosphère, il faut des instruments assez sophistiqués. Ce que verront les astronomes, à condition d'avoir de bonnes conditions d'observation, c'est et juste au moment où Vénus soit rentre, soit sort du disque, c'est la lumière du Soleil va être réfractée par l'atmosphère de Vénus, comme par une lentille, et on doit voir le bord de Vénus illuminé comme par un anneau de lumière qui sera en fait représentatif de l'état de l'atmosphère. Alors ça, c'est une mesure scientifique intéressante, très rare, puisqu'on ne peut la faire qu'au moment des passages de Vénus, c'est-à-dire deux fois par siècle, et donc qu'on n'avait pu faire jusque-là qu'avec des instruments encore un peu performants. On va essayer de le faire cette fois-ci. Bien entendu, on a aujourd'hui des méthodes beaucoup plus avancées pour étudier l'atmosphère de Vénus. Ces mesures sont un peu... pas anecdotique, intéressante pour beaucoup de choses, mais elles seront aussi un moyen de tester des conditions assez particulières d'observation, ce qu'on appelle donc les passages, les transits ou les occultations, une planète devant le Soleil, et ce sont des choses qu'on étudie également lorsqu'on regarde les planètes extrasolaires. Donc il y a là un nouvel intérêt, un regain d'intérêt pour les observations de Vénus, ce qui fait que beaucoup d'astronomes seront intéressés par le phénomène, ainsi que bien entendu le grand public.
Alors justement, au niveau du grand public, on le disait tout à l'heure, pour la France, ça va se passer au lever du soleil et le transit sera en phase terminale.
Et oui, le transit, ou le passage de Vénus se passe, il commence à 0h et quelques, c'est-à-dire à un moment où le soleil n'est pas visible.
0h03.
Voilà, pour la France. Et il se termine à 6h37. Pour pouvoir le voir, il faudra donc voir le soleil à son lever. Alors le lever de soleil est à 5h50, le 5 juin.
C'est ça, je confirme.
Le 6 juin, pardon. Et par conséquent, on aura un peu plus d'une demi-heure pour pouvoir voir Vénus. L'avantage étant que si l'horizon est dégagé, s'il n'y a pas trop d'humidité, là on pourra le voir au tout début, même sans lunettes, puisque on verra le soleil à son premier lever. Cependant, il faut évidemment être conscient que les conditions d'observation à l'horizon sont, surtout dans nos régions, en région parisienne, souvent assez médiocres. Donc les chances de pouvoir observer le phénomène sont relativement faibles. Par contre, il y aura bien sûr une zone de visibilité, comme pour les éclipses, et les choses s'amélioreront quand on va vers l'Est, en particulier dans les pays de l'Est jusqu'au Japon. Et donc il y aura beaucoup d'astronomes autour du monde qui pourront observer le phénomène. La France, on pourra l'observer, mais vraiment tout juste au lever du soleil. Alors, c'est un peu mieux pour nos auditeurs de l'Est, nous en avons à Strasbourg.
Bien sûr, puisqu'on écoute IDFM partout dans le monde grâce à Internet. Justement, j'aimerais aussi qu'on parle de cette observation depuis la Terre, mais aussi on le fait depuis l'espace. On en a parlé hier lors de la conférence de presse. Le télescope spatial Hubble va pointer sur la Lune. Ça, c'est assez curieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ?
Oui, en effet, comme c'est un phénomène donc assez exceptionnel, les comités de sélection des instruments spatiaux sont également intéressés à voir ce qui pouvait être fait. Le télescope spatial Hubble ne peut pas regarder le Soleil, donc ne peut pas observer directement le phénomène, mais il peut observer, en regardant la Lune, l'effet indirect du passage de Vénus. Alors cet effet va être extrêmement faible, puisque ce qu'on va voir en regardant la Lune, c'est la lumière diffusée par la Lune, du Soleil diffusé par la Lune. Et qu'est-ce qui se passe quand le disque de Vénus passe devant le Soleil ? Eh bien, une toute petite partie du disque solaire est occultée, donc il y a un petit peu moins de lumière qui vient du Soleil, mais quand même pas beaucoup moins. Donc il va falloir vraiment mesurer au 100 millième la variation de lumière de la Lune pour pouvoir observer le phénomène. Mais en principe, les capacités des instruments de Hubble doivent permettre de voir le phénomène, donc d'une manière très indirecte, mais d'une manière qui intéresse là aussi moins pour ce qu'on risque d'en apprendre sur l'atmosphère de Vénus que pour la technique et pour valider la technique de mise au point qui peut être réutilisée dans d'autres cas, en particulier pour les planètes extrasolaires.
Bien sûr. Et puis, il y a aussi des satellites qui sont dans l'espace, et notamment une sonde dont vous êtes spécialiste, c'est la sonde Vénus Express.
Tout à fait. Nous avons là, depuis 2006, un satellite artificiel autour de Vénus, la sonde Vénus Express, qui est en quelque sorte un satellite météo qui nous donne l'état de l'atmosphère de Vénus, et qui mesure les vents, qui mesure la composition, et ainsi que beaucoup d'autres choses. Alors, faut savoir que pour les Vénusiens, et là c'est pas un robot vénusien, ce phénomène n'a rien de particulier. C'est un phénomène géocentrique pour nous, habitants de la Terre, l'alignement de la Terre, de Vénus et du Soleil. Pour une sonde autour de Vénus, il ne se passe rien de particulier. Mais comme on a cette sonde autour de Vénus, on va pouvoir mesurer directement l'état de l'atmosphère au moment de ce passage de Vénus, et donc comparer et mesurer la composition physique de l'atmosphère, en particulier sa pression et son extension, avec la sonde Vénus Express, et à partir des observations au sol, faire les modèles qu'il faut pour interpréter les données au sol. Donc les observations de Vénus Express seront intéressantes. Alors il faut savoir aussi qu'on n'aura pas la communication directe avec la sonde Vénus Express, puisque comme justement le Soleil est aligné avec Vénus et la Terre, les ondes radio émises par la sonde sont brouillées par les émissions radio solaires, donc il faudra attendre quelques jours pour que la transmission de données puisse se faire. Mais ces observations sont bien programmées en effet.
Cette sonde Vénus Express n'a pas été lancée spécialement pour le transit de Vénus, elle a aussi une autre fonctionnalité.
Ah non, bien sûr, c'est, comme je le disais, hein, tout à fait anecdotique pour la sonde spatiale. Elle a été lancée en octobre 2005 et elle est en orbite autour de Vénus depuis avril 2006, donc ça fait maintenant 6 ans. Et elle a une orbite de 24 heures, mais qui est une orbite très allongée, une orbite polaire très allongée, qui l'a fait passer au-dessus du pôle Nord toutes les 24 heures. Et observer la planète de manière plus globale autour du pôle sud. Et on a eu depuis 6 ans des observations magnifiques de la planète en infrarouge, en ultraviolet, en lumière visible, mais aussi en ondes radio. Et les connaissances de Vénus ont beaucoup progressé grâce à cette sonde spatiale de l'Agence spatiale européenne et qui a complété beaucoup d'observations précédentes et qui est aujourd'hui le seul satellite autour de Vénus. Les agences spatiales s'intéressent beaucoup à Mars, mais on peut envoyer de sondes autour de Vénus ces dernières années.
Bien sûr, Vénus Express en est d'ailleurs la preuve. Alors, pour revenir sur les observations du passage de Vénus devant le Soleil, un instrument mis au point, qui a un nom bien curieux, c'est le sidérographe. Alors, qu'est-ce que le sidérographe ?
Alors, c'est ce qu'on appelle aussi un coronographe, c'est-à-dire un instrument qui avait été mis au point pour observer le Soleil, et plus exactement la couronne solaire. Et c'est un instrument qui fait en quelque sorte une éclipse artificielle de Soleil, une éclipse de Lune, qui occulte le disque, ce qu'on appelle la photosphère, le disque brillant du Soleil, de manière à pouvoir observer la couronne solaire qui est l'enveloppe la plus externe du Soleil et qui est très difficile à observer directement à cause de l'éclat du Soleil. Alors en utilisant cet instrument pour observer Vénus, d'où le nom sidérographe, puisque sidère est le nom dérivé du grec, pour parler des affaires de Vénus, eh bien cet instrument, en occupant le disque solaire, va permettre d'observer Vénus très très près du disque solaire et d'observer en particulier l'anneau de lumière lorsque la lumière du Soleil est réfractée, lorsque Vénus passe très précisément sur le bord du Soleil. Et cet instrument a été mis au point entre l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Nice à plusieurs exemplaires qui seront utilisés en différents endroits autour du monde pour faire des observations de ce passage.
Et toutes ces informations seront ensuite centralisées à l'Observatoire de Paris ?
Tout à fait, entre donc les deux organisateurs de ces observations, qui sont à l'Observatoire de Paris, Thomas Wiedemann, et à l'Observatoire de Nice, Paolo Tonga. Et ils vont rassembler toutes ces observations, ainsi que d'autres, par des observateurs professionnels, et faire, ça prendra sans doute quelques mois, voire même plus d'un an, mais un bilan complet des observations de ce passage de Vénus, à l'usage des observateurs professionnels, mais également des astronomes amateurs.
Oui, voilà, parce que je réagis justement à une question d'un auditeur, Stéphane, qui dit « On a l'impression qu'on sait tout de Vénus, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. »
Tout à fait, c'est comme pour à peu près tous les objets du système solaire. À chaque fois qu'on les étudie d'un peu plus près, on se pose de nouvelles questions et on se rend compte que pour répondre à ces nouvelles questions, il va falloir soit d'autres instruments sur les télescopes au sol, soit d'autres missions spatiales. C'est le cas de Vénus. On a observé dans les années 80, avec les sondes soviétiques à l'époque et américaines, l'atmosphère de Vénus. On a même été jusqu'à, par les sondes soviétiques Venera, jusqu'à descendre sur sa surface, observer donc de très près quelques bribes d'éléments de minéralogie de Vénus. On a également observé par radar, cette fois-ci, la surface de Vénus en orbite, la sonde Magellan en particulier, et après d'autres sondes dans les années 80, qui a permis de faire une cartographie précise de la surface de Vénus. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'informations manquantes, en particulier pour expliquer la météorologie de Vénus, qui est très particulière, hein, très différente de l'atmosphère de la Terre, avec une atmosphère extrêmement épaisse, hein, presque 100 fois l'atmosphère terrestre, une atmosphère très chaude, puisqu'il fait à peu près 430 degrés à la surface de Vénus, et des vents qui font que les couches supérieures de Vénus tournent en 4 jours seulement autour de la planète, alors que la planète elle-même tourne sur elle-même en 243 jours. Donc tous ces phénomènes-là commencent à être compris, mais de manière très incomplète. Et je citerai simplement une grande question à laquelle on n'a pas encore de réponse, même si on en a juste quelques éléments. C'est le volcanisme sur Vénus qu'on voit sur ces images radar, est-il un volcanisme aujourd'hui encore actif ou les volcans sont-ils complètement éteints? On sait aujourd'hui qu'il y a des volcans relativement jeunes à l'échelle géologique, mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a encore aujourd'hui des éruptions volcaniques sur Vénus. C'est pourtant quelque chose qu'il serait très important de connaître pour l'histoire de la planète.
Et Vénus Express, avec la proximité de la planète, on ne peut pas voir s'il y a justement...
Et non, à cause de l'atmosphère qui est une atmosphère déjà très opaque et surtout avec des brumes continuelles qui masquent complètement l'atmosphère, sauf un peu dans l'infrarouge ou en ondes radar. Et de ce fait, s'il y a des volcans sur Vénus en activité, les chances de l'observer, de passer juste au moment d'une éruption, sont très faibles, donc il faudra continuer à observer pendant longtemps ou observer indirectement par des phénomènes de dégazage ou d'éruption et de panache volcanique. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse positive, mais on a quelques indices qu'il faut continuer à observer. On a quelques chances de l'observer si on continue.
Alors, vous parliez il y a un instant des résultats justement de ces observations qui seront faites lors du passage de Vénus devant le Soleil. Eh bien, justement, on parlera dans un instant des retombées scientifiques de ce passage dans l'avenir, mais ce sera après une nouvelle pause musicale avec Angoon. On parlait de la Lune tout à l'heure, puisque Hubble sera pointé sur la Lune et essaiera de détecter une infime baisse de luminosité du Soleil dû au passage de Vénus. Eh bien, on écoute Angoon justement avec un titre qui s'appelle Au nom de la Lune.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98FM.
18h passées de 43 minutes sur IDFM Radio Anguin, dernière partie de cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème ce soir, c'est le passage de Vénus devant le Soleil. Un événement à ne surtout pas manquer puisque c'est un fait rarissime, hein. C'est donc la deuxième fois que ça se passe. La première fois c'était en 2004 et la prochaine fois ce sera en 2117. On peut voir ça qu'une fois dans la vie, donc à ne pas manquer. Notre invité et Pierre Drossard, qui est directeur de recherche CNRS, directeur du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qu'on appelle le LESIA, de l'Observatoire de Paris. Nous parlions tout à l'heure, Monsieur Drossard, justement de ce passage de Vénus 2012, hein, qui aura lieu le 5 juin prochain, je le rappelle aux auditeurs. Quelles seront les retombées scientifiques pour l'avenir?
Alors, en réalité, c'est plutôt un test pour des techniques d'observation de planètes devant leur étoile. Et c'est là que se font les mesures a priori les plus intéressantes. Sur Vénus elle-même, on a, comme on le disait tout à l'heure, des sondes spatiales qui l'ont observé, des télescopes au sol, donc on connaît déjà bien l'atmosphère. On n'attend pas une révolution de ces observations particulières. Peut-être quand même quelques observations utiles, mais ça sera très ponctuel. Par contre, les techniques d'observation d'une planète passant devant son étoile, c'est aujourd'hui très très à la mode, on va dire, et très regardé, parce que c'est quasiment la seule façon pour observer ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes autour d'autres étoiles. On en connaît aujourd'hui à peu près 800. C'est donc devenu des objets d'astronomie qu'on étudie en grand nombre, mais on ne peut pas encore beaucoup les étudier physiquement. On ne connaît en gros que leur masse, leur rayon, et souvent de manière assez indirecte, et leur orbite. Pour aller plus loin et commencer à avoir de l'information sur leur atmosphère, eh bien, il y a des phénomènes particuliers. C'est lorsque cette planète passe devant l'étoile, comme va le faire Vénus devant le Soleil le 5 et 6 juin là, prochainement, on peut alors voir d'abord la diminution du flux de l'étoile lorsque la planète occulte un petit peu le disque, mais également lorsque la planète passe au bord, soit derrière, soit devant, une petite modification de la lumière de l'étoile par l'atmosphère de la planète et en tirer de l'information. Alors ça demande évidemment des techniques très sophistiquées puisque le flux de l'étoile par rapport au flux de la planète est très grand. Ça se chiffre en centaines de milliers, voire millions de fois plus grand. Mais les instruments actuels peuvent avoir cette précision et alors là, on touche vraiment à des choses extrêmement intéressantes parce qu'on peut détecter dans l'atmosphère des molécules par spectroscopie. On peut essayer de connaître la densité de l'atmosphère et avoir donc l'information sur le type de planète qu'on a. Et on s'attend évidemment à des différences puisque jusqu'à maintenant, on connaissait que nos planètes comme Vénus ou Mars avec des atmosphères, ou les planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ou alors les planètes solides, Mercure à côté, ou les satellites des planètes géantes, ou les astéroïdes, mais on se demande s'il n'y a pas une bien plus grande variété de planètes en regardant autour d'autres étoiles. Alors ces techniques-là, elles sont encore balbutiantes, on n'a encore que quelques éléments d'objets qu'on compte sur les doigts de la main, où on a réussi à avoir quelques informations grâce à ces techniques d'occultation ou de transit, mais on espère beaucoup dans le futur, avec des manips spatiales, arriver à faire ça. Donc l'idée, elle sera exactement la même que pour Vénus devant le Soleil. On va regarder une étoile, on aura à l'avance mesuré l'orbite de la planète et on saura à quel instant précis se produit l'occultation ou le transit, et on mesurera la petite déflexion du flux de l'étoile à ce moment-là, et en le mesurant avec spectroscopie, on peut en déduire l'information. Donc ça, c'est assez fascinant, et pour pouvoir tester un peu, faire les modèles à l'avance de ce qui va se passer, eh bien, on va pouvoir utiliser une observation en temps réel, celle de Vénus, qu'on connaît déjà bien, devant le Soleil.
Question de Stéphane qui demande est-ce que ces retombées scientifiques justement serviront pour la fabrication des instruments du futur ?
Alors oui, indirectement, puisque ce qu'on va faire grâce à ces observations du passage de Vénus, c'est avoir des modèles quantitatifs sur ordinateur hein, qui montreront exactement ce qu'on peut voir et d'une manière très quantitative. Donc à partir de là, on va faire à partir de ces mesures, ce qu'on appelle des listes de spécifications scientifiques, c'est dans le jargon des astronomes instrumentalistes, qui, elles, se traduisent en spécifications techniques, un cahier des charges, en quelque sorte, pour les futurs instruments. Et effectivement, c'est à partir de là qu'on verra quelles technologies il faut faire avancer pour arriver à faire cette mesure, et ensuite les mettre sur des instruments, très probablement des instruments dans l'espace, parce que l'atmosphère de la Terre brouille énormément les observations au sol. Et là, comme je disais tout à l'heure, on arrive dans des domaines où il faut arriver à mesurer des fluctuations du 100 millième ou du 1 000 000ième pour pouvoir arriver à ces mesures.
En effet. Alors il y a Rose Desvents aussi qui intervient sur Internet et qui dit « Je ne comprends pas les propos de votre invité puisque vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut jamais regarder le soleil sans protection. Or, vous avez dit que pour la France, si le soleil est au ras de l'horizon, on peut regarder sans protection. »
Alors là, c'est pas de l'astronomie, c'est de l'expérience courante. Hein. Tout le monde a déjà regardé un coucher de soleil sur la mer ou en enlevant ses lunettes de soleil au dernier moment. Donc c'est en ce sens-là que on peut l'observer avant qu'il soit vraiment levé. Par contre, dès qu'il s'est un tout petit peu élevé au-dessus de l'horizon, il faut mettre des lunettes de protection. C'était simplement cela que je voulais dire.
Précision faite, oui. Comme ça, je pense que Rose Desvents a bien compris où on voulait en venir et qu'il n'y avait pas de contradiction dans les propos de notre invité. On poursuit toujours avec des questions internet, puisque là, en fin d'émission, eh bien voilà, ça tombe un petit peu sur l'écran. Et notamment, une réaction de Stéphane qui avait dit tout à l'heure, vous avez dit 5 et 6 juin. Alors oui, effectivement, c'est en fonction du temps universel, je crois, hein, c'est ça ?
Oui, alors pour la France, c'est uniquement le 6 juin au lever du soleil. Par contre, le début de l'entrée de Vénus sur le soleil, qu'on ne pourra pas voir de France puisque ça se passe autour de minuit, par contre, ça sera observable dans d'autres pays, au Japon par exemple, au Japon en particulier, ça commence le 5 juin. C'est pour ça qu'on dit le 5 et le 6 juin. Mais il faut bien répéter à nos auditeurs français que c'est bien le 6 juin au lever du soleil qu'on a une petite chance d'observer le phénomène.
Voilà. Une autre question aussi de Cédric qui demande « En 2004, je me souviens avoir vu ce passage de Vénus, c'était magnifique. Est-ce que pour 2012, il y aura des portes ouvertes à l'Observatoire de Paris ou dans les observatoires de France ?»
Alors malheureusement non, parce qu'à l'Observatoire de Paris, donc à cause de l'heure extrêmement tôt le matin, oui. Et du fait aussi que les chances de pouvoir observer vraiment le lever du soleil sont assez faibles, il n'y a rien qui va être organisé à cette heure-là. Alors dans les autres observatoires de France, il y a quelques événements pour les astronomes, au moins pour les amateurs, mais je crois à l'Observatoire de Haute-Provence, mais donc rien de spécial pour le grand public à l'observatoire. Cela dit, il suffit d'avoir un site dégagé où vous pouvez espérer voir le soleil à son lever. Là, évidemment, ça va dépendre du temps, mais en se mettant sur un site un peu élevé, avec simplement des lunettes de protection, donc c'est un phénomène que tout le monde peut observer.
Stéphane qui demande aussi, est-ce que ce phénomène peut être aussi suivi via Internet ?
Alors oui, il y aura effectivement, alors je ne sais pas si ça sera fait en direct, mais en tout cas en léger différé, il y aura très vite sur le site en particulier de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris, imcce.fr sur Internet, des liens avec des observateurs un peu partout dans le monde. Alors comme ces observateurs vont pas être tous dans des sites forcément desservis avec du haut débit, n'espérez pas forcément d'avoir le phénomène en temps réel, mais en léger différé, vous aurez certainement dans la journée du 6 juin les toutes premières observations faites par tous ces observateurs. Alors on en a au Kazakhstan, au Japon, on en a également dans le Grand Nord, une des façons d'observer le soleil, c'est d'aller là où il est levé toute la journée, au-delà du cercle polaire, au mois de juin. Et il y en a également aux États-Unis, où ils pourront voir à certains endroits, pendant un moment, le disque de Vénus.
Voilà, donc à défaut de pouvoir le voir en France, ils pourront se consoler en regardant sur Internet. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à rajouter sur ce passage de Vénus ?
Eh bien, sur le passage lui-même, si ce n'est que c'est un moment, je dirais pas seulement d'intérêt scientifique, on l'a vu, mais également de partage collectif, hein, d'un phénomène astronomique exceptionnel. Donc il y a, et c'est pas négligeable, un petit instant d'émotion en disant que c'est quelque chose vraiment qui se produit très rarement et qu'on peut partager un peu avec tous les amoureux du ciel. Et c'est aussi ça que je voulais faire partager à vos auditeurs.
Avant de passer au mot de la fin pour conclure cette émission, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur un livre qui s'appelle « Le passage de Vénus » de Jean-Eudes Darlot. C'est une préface de Jean-Pierre Luminet d'ailleurs. Quelques mots sur cet ouvrage ?
Alors oui, c'est certainement l'ouvrage de référence hein, par un grand spécialiste de la mécanique céleste, qui est Jean-Eudes Darlot, astronome à l'Observatoire de Paris. Et il vous décrit, alors avec tous les détails et techniques de calcul de ces passages, les calendriers et tout l'historique, hein, qu'on n'a pas pu faire, hein, dans cette courte heure, l'intérêt des mesures de distance qui ont pu être faites dans le passé avec ces observations et les toutes premières observations, ainsi qu'un passage sur la physique de la planète Vénus.
Donc voilà, un livre que vous pouvez trouver dans votre librairie habituelle ou vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'Observatoire de Paris pour en savoir plus. Il est au prix de 20 euros. Est-ce qu'on peut rappeler, pour terminer cette émission, les sites internet des différents sites qu'on a nommés notamment durant cette émission ?
Oui, donc il y a l'Observatoire de Paris qui a pour site obspm.fr. Donc c'est le site officiel de l'Observatoire de Paris, mais également le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui est en pointe, hein, pour tous ces calculs d'éclipses, d'occultations et d'observations grand public, et qui est imcce.fr, tout simplement. Et là-dedans, vous trouverez ensuite beaucoup de liens vers d'autres sites français ou étrangers, puisque beaucoup d'instituts s'intéressent à cet événement exceptionnel en France et à l'étranger.
Le mot de la fin pour conclure, Monsieur Drossard.
Eh bien, je terminerai sur Vénus, qui est une planète assez fascinante, hein, pour moi en particulier, qui l'étudie depuis déjà fort longtemps et qui est la chance d'avoir des données d'un instrument en orbite autour de Vénus. Vénus est une planète qui est un peu délaissée ces dernières années par les astronomes professionnels, mais qui nous apprend énormément sur la physique d'une planète. Et je dirais qu'aujourd'hui, Vénus, on la regarde plus seulement comme la deuxième planète du système solaire en partant du Soleil, mais également comme un prototype de ce que pourraient être les exoplanètes, les planètes extrasolaires, qu'on commence à étudier un peu. Et on s'attend à en voir, bien sûr, qui seront certainement différentes, mais c'est l'étalon à partir duquel on va pouvoir maintenant commencer à étudier les exoplanètes. Et tout cela est assez fascinant pour les décennies à venir.
Merci beaucoup, Monsieur Drossard, pour votre participation à cette émission À Toi les Étoiles. Merci à l'Observatoire de Paris, son service presse notamment, et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette émission, aux auditeurs pour leurs questions posées via Internet et puis pour leur écoute aussi. Sachez que prochainement aura lieu la Formule été d'À Toi les Étoiles. Vous le savez, je pars dans la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie. Alors, si vous avez envie de faire découvrir votre musée ou votre site, n'hésitez pas à vous contacter la radio. Prochaine émission, ce sera le mercredi 20 juin 2012. Ce sera la dernière avant la formule de l'été. Ensuite, on sortira des studios, hein, comme chaque été, de 18h à 19h. Donc, soyez au rendez-vous pour la prochaine émission À Toi les Étoiles. Dans un instant, le journal de Radio France Internationale. Et ensuite, vous retrouverez l'émission de Christophe, le Mag Music. Et puis la suite des programmes, hein, notamment avec Country and Souvenir et la Libre Antenne. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous au mois de juin. Et merci encore à toutes et à tous et à Monsieur Drossard pour la participation. La marraine Daniel Brio, le parrain Jean-François Clairvoy, Jean-François Pellerin, pardon, et moi-même vous souhaitons une bonne soirée et rendez-vous dans un mois.
IDFM 98 FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. IDFM Radio Anguin.